Troisième partie. Chapitre 1. La terre était en joie. Bêtes et gens, dehors, ont fauché les prés et les seigles, ont rentré la moisson. Les ruisseaux, aux trois quarts bus par le soleil, coulaient tout maigres, sans bruit. Mais les feuillages touffus enflaient leur voix, le soir, pour murmurer leurs mystères étoiles. Le château, sur son rocher, resplendissait, avec la parure du jardin que les pluies du printemps avaient épanoui. Des fleurs sauvages avaient poussé sur le toit de la ferme, dont le potager sentait bon la salade et la fraise. Au foyer des Michel, la douleur était revenue, car Madame Gobert avait déclaré son intention de reprendre Jean-Marie tout à fait. À mesure que celui-ci grandissait, elle sentait sa jalousie contre Ursule s'inquiéter davantage. Pourtant, elle se savait injuste, méchante. Elle tâchait, par des promesses de paix et de bonté, de se disculper vis-à-vis de son mari et d'elle-même. Ainsi, pour fixer sa pensée trop remuante, pour donner aux forces de son esprit l'occasion de se manifester, fécondes et nobles, elle avait décidé de bâtir sur la route qui va de Saint-Chély au Besson, au bas de la falaise des 13 vents, une école. Avant de se mettre à l'œuvre, elle entendait se débarrasser du souci de son enfant. Les Gobert n'osaient pas, du moins encore, congédier leurs fermiers, dont chacun louait à l'envi l'endurance et le savoir. Or, chaque fois qu'un terme de bail serait franchi, le bail, qui allait jusqu'en septembre, se trouverait naturellement, selon l'usage, prolongé de 6 mois. Gobert, dans une de ses illusions généreuses, comptait que la satisfaction de posséder Jean-Marie assagirait sa femme. On pourrait, alors sans encombre, conserver peu à peu les fermiers, s'accorder avec eux de bon cœur. Il n'y aurait, à la reprise de Jean-Marie par Hélène, qu'un mauvais moment à passer. Mais Ursule saurait-elle bien raisonner ? Aujourd'hui, la vieille servante d'Hélène était venue lui annoncer que tout était prêt au château pour recevoir Jean-Marie et que le lendemain, Madame viendrait elle-même le prendre à la ferme. Ursule, à cette nouvelle, avait montré du courage, comme si, tout d'abord, elle n'eût pas compris la séparation irréparable. Aussitôt, elle avait rassemblé le trousseau de Riri, ses vêtements et son linge, qu'elle avait tant de fois recousus, raccommodés, lavés. Dans cette occupation, sa douleur s'irrita. Elle versa des larmes que machinalement elle essuyait de la main ou des longues brides de son bonnet. Elle bourdonna de colère. « Ah, ces voleurs, ces maîtres sans entrailles, ce grand château où les vieux domestiques ne songeaient qu'à eux-mêmes. Les Gobert allaient défendre à Jean-Marie de descendre à la ferme et médire devant lui de sa maman, de cette travailleuse qui parlait patois. On verrait néanmoins si la dame, avec ses mains blanches, sa figure poudrée de parfum, plairait à Riri autant que la paysanne. » Et dans son désarroi, Ursule se trompait de corbeille, mêlant le linge de Riri avec celui de Florent, mais si scrupuleuse qu'elle préférait restituer à la dame trop de chemises et de tabliers. Les enfants jouaient à ses pieds, se disputaient au moindre propos. Toujours elle donnait tort à Florent. Une fois, elle s'emporta jusqu'à le battre. « Oh, maman !» dit Jean-Marie étonné. « Tu as fait mal à frère !» Et Jean-Marie montrait le poing à sa maman, laquelle se mit à rire. Déjà, il était bon, le pauvre. Sûrement, il ne ressemblerait pas à sa mère du château. Le lendemain, toute la famille fut debout à l'heure accoutumée. Les hommes refusèrent d'aller à la moisson pour ne pas laisser Ursule seule, livrée aux caprices des Gobert. Toute la matinée, ils attendirent Hélène. Pendant qu'ils mangeaient, à 11 heures, s'imaginant déjà que, retenus par un scrupule d'honnêteté, au dernier moment celle-ci n'osait venir, ils entendirent son pas léger, gracieux, sur le gravier du talus. Elle entra simplement, dit bonjour avec calme, en refoulant son émoi. Ils la regardèrent longuement, sans dire mot, le sang glacé. Mais Jean-Marie, qui s'amusait à lancer des pommes de terre sur la porte de l'étable, se sauva vite en poussant des cris entre les jambes d'Ursule. « Maman ! Maman !» Lorsque, dans la ferme, on le corrigeait de quelques peccadilles, on l'avait trop menacé de l'enfermer au château, sous la surveillance de la dame, pour qu'il ne pressentît point tout de suite son malheur. Et il criait. Et sa mère, d'une voix rauque, essaya de le consoler en vain. La dame aussi l'accablait de consolation, s'emparait de lui doucement, avec des caresses. Soudain, irritée par la résistance opiniâtre d'un si faible enfant, elle l'arracha à la paysanne. Il eut beau se débattre, elle l'étreignit entre ses bras, sans préserver son corsage qu'il pouvait déchirer. « Ah, mon Dieu !» dit Michel, « il comprend tout maintenant, madame !»« S'il comprend, pourquoi se révolte-t-il? Que lui a-t-on fourré dans la tête ?»« Rien de mal, certes, prenez-le puisqu'il le faut, seulement soignez-le. » Il sera aussi bien chez moi qu'ici, je suppose. » Ursule, la gorge serrée par l'angoisse, dévorait son enfant de tous ses yeux, comme si jamais plus il ne lui fût permis de le revoir. Elle se levait, elle le suivait en lui tendant les bras, presque à son insu. Et le petit la sentait, la réclamait toujours, sans cesser de se débattre. Hélène s'arrêta sur le seuil. Hautaine, avec autorité, elle parla. « Ne vous dérangez pas, Ursule, on viendra prendre le trousseau de ce sauvage. » Après un silence, Ursule, qui, sous la rudesse de la dame, tremblait, éclata tout à coup. « Non, vous me feriez mourir, je veux mon enfant !» Si patiente à l'ordinaire, elle se précipitait, tirant d'une main la dame par la robe, de l'autre ressaisissant déjà son petit. Les hommes, que surprenait tant de témérité, se dressèrent ensemble. J'étais lâche. On ne dira pas qu'Ursule s'est laissée voler comme ça. Il est à moi. Je l'ai nourri. Elle s'acharnait, sans mesurer son élan ni ses forces. Jean-Marie, craignant pour sa maman, qui n'avait jamais vu si malheureuse, se désolait, luttait avec fureur. Mais la dame le serrait contre son corps à l'étouffer. « Si vous continuez, Ursule, j'appelle au secours. Reculez ou je vous fais expulser tout de suite. » Alors Michel s'avança. S'appuyant à la porte parce qu'il manquait de courage, il dit avec résignation « Viens, Ursule, laisse la dame, viens avec nous. »« Ah oui, mon Dieu !» Et la paysanne, brisée par la douleur, se laissa choir sur le gravier, les bras encore tendus vers le petit qui s'en allait à jamais. Hélène, enfin, put s'élancer sur la route, puis, en quelques bonds, gravissant le sentier qui, le long du torrent, rejoint le jardin, elle courut. À ses cris, les domestiques étaient sortis de la cuisine. Ils venaient, sous la voûte, au pied de l'escalier, l'assister en larmoyant. Altière, elle les arrêta. « Je n'ai plus besoin de vous. Tout à l'heure, vous n'avez pas entendu mon appel ?»« Non, madame. » « Vous êtes sourd. Ah, vous vous moquez bien de vos maîtres. Ils sont tous de la même race. » Elle monta précipitamment, tandis que Jean-Marie, éperdu, s'accrochait à son cou. Elle entra, comme un orage, dans la salle paisible où Gobert, parmi ses dossiers, travaillait. Stupéfait, il leva le front. « Toi aussi, lui dit-elle en s'adossant à la porte qu'elle avait refermée. Toi aussi, tu n'as rien entendu ?» « Non, ma bonne. Ces gens me refusaient le petit. Ils se sont révoltés. »« Comment aurais-je pu le prévoir? Nous nous étions si bien mis d'accord. » »« Avec ces sournois, un scandale était à craindre. Tu aurais dû m'entendre. J'ai cru que cette mégère allait me tuer. » Elle s'épongeait le cou, les mains, le visage, qui était couvert de sueur, déchiré d'égratignures. Debout contre la porte, l'enfant à ses pieds, elle regardait son mari avec une colère qui se mêlait étrangement à une certaine confusion. « Referme à clé si tu veux, si tu as peur que le petit s'échappe, lui dit-il, mais avance-toi. Tiens !» S'étant approché, il referma lui-même. « Oui, gronda-t-elle, je me vengerai, tu peux le croire. » « Et comment feras-tu ? D'abord, tu les chasseras. » « Mais, ma bonne, c'est impossible. Il y a la loi, les usages qui ont force de loi. »« Avec ta loi et tes usages ? Puis-je les méconnaître, moi surtout ? Eh bien, voyons, est-ce que cette femme ne m'a pas offensé et ces hommes qui ricanaient? Suis-je, oui ou non, chez moi?
Sans aucun doute, tu es chez toi à la ferme. Mais s'ils résistent, tu ne peux pas les obliger à partir.
Si tu veux, ils partiront. En tout cas, je ne pourrai plus les avoir devant mes yeux.
Gobert, dans son impuissance, préféra se taire, affligé qu'il était par cette crise imprévue de folie. Il soupira, se rapprocha peu à peu, espérant la toucher au cœur par sa tristesse, par son air de douceur et de miséricorde souriante.
« Avoue-le, dit-elle sèchement, je ne suis pour toi qui es un lettré, un philosophe, qu'une fille de paysan qui doit embellir ton existence et te distraire. Je parie que tu me prends aussi pour une mégère qui cherche les querelles et les procès. »
Voyons, voyons, tu m'outrages, Hélène, tu pourrais être si heureuse.
Je ne le serai pas tant que j'aurai devant mes yeux ces bêtes de la terre.
Des bêtes de la terre, ils ne savent rien, il est vrai, sinon par la terre qui est rude, brutale. Il faut avoir pour eux de la charité, nous qui, sous tant de rapports, les dominons.
Débarrasse-moi de leur présence!
Comme il s'inclinait encore et la priait d'être simple, de ne pas faire de la vie une tragédie, après tout ridicule, elle se déroba d'une secousse. Sans insister, il s'écarta. Il croyait, dans sa noblesse, qu'elle subissait le mal de son éducation incomplète et n'acceptant pas qu'elle fût responsable de son orgueil méchant, il voulait l'en guérir et il patientait. Il la plaignait, enfant que la fortune avait gâtée. Aujourd'hui, dans ce différend avec les fermiers, quelle solution trouverait-il qui pût, sans enfreindre la loi sur les usages, satisfaire Hélène? Il marcha vers une fenêtre et, s'accoudant sur la pierre, il contempla sans se lasser le plateau en travail où soufflait un vent tiède, le vent mystérieux de l'espace qui disperse les gerbes de vie et porte quelquefois au cœur de l'homme une inspiration. L'enfant se remuait davantage sur le tapis. Il observait avec méfiance cette femme qu'il avait meurtrie dans ses bras. Hélène, exaspérée par la persistance de son regard, le menaça des mains et du visage.
« Et ce niais qui préfère une tanière! Viens ici !»
L'enfant, rouge de peur, se pelotonna contre le mur. Ses yeux grands ouverts demeuraient immobiles, étincelants d'une haine, où peut-être sa mère reconnut comme un reflet de son âme, car soudain, elle baissa le front, et tout l'être brisé par la colère et par la douleur, elle sanglota, versa des larmes, ainsi qu'une enfant. Gobert comprit le désarroi d'Hélène, son élan de repentir, après la crise de folie. Tout doucement, il s'avança vers Jean-Marie, qui, n'ayant pas peur de l'homme, s'accrochait à ses jambes, et le conduisit à sa mère.
« Viens, mon petit, c'est ta maman, celle-là. »
« Non !»
Pourtant, il se laissait conduire sans rébellion. Entre les genoux d'Hélène, il ne bougea plus. Hélène, après avoir séché ses larmes, le saisit, l'embrassa longuement, en lui parlant, avec autant de sérieux qu'à une grande personne, de ses revendications et de ses droits.
« Ah, mon petit, tu es chez toi dans cette belle maison. Pourquoi voulais-tu rester là-bas? Elle m'a battue, cette femme. Elle te battait aussi, n'est-ce pas ? Elle te battait ? »
L'enfant, d'un signe, répondit non. Elle le souleva, bien qu'il se fît pesant comme une pierre.
« Embrasse ta maman, dit Gobert. Tu vois, elle pleurait à cause de toi parce qu'elle t'aime. »
Jean-Marie, étonné, regarda la dame et, la trouvant jolie, malheureuse, il se demanda pourquoi elle pleurait, puisque personne ne lui faisait aucun mal. Doucement, avec imploration, elle présenta ses joues à l'enfant. Alors, après avoir hésité, il posa ses menottes sur le visage pâle qui avait tant de délicatesse.
« Tu seras bien nourrie, bien soignée, lui dit-elle. Crois-tu que je te tiendrai en prison? Nous sortirons, nous aussi, tant que tu voudras. Je t'achèterai une petite voiture pour que tu puisses t'en aller bien loin, dans la campagne que tu ne connais pas. » « Ah oui, oui !»
La vision de cette voiture le ravit tout de suite, une voiture à quatre roues sans doute, qu'il conduirait seul, en toute liberté. Et davantage, avec plus de tranquillité, il admirait la dame qui sentait bon, qui était gentille, en sa robe moirée comme un ruisseau.
« Tiens, pour commencer, nous allons t'habiller en monsieur. »«
Non, non !»«
Si, si, sois sage !»
Gobert marchait de long en large, les mains aux poches, avec une effusion de bonheur. Sur l'ordre d'Hélène, il courut demander le costume neuf de Jean-Marie. Mais celui-ci, de nouveau protesta, se défendit des pieds et des mains. Son vieux costume que sa maman avait cousu et qui était imprégné de l'odeur de la ferme. Refusait-il instinctivement d'admettre qu'on pût s'imaginer, en changeant son apparence, changer aussi son cœur ? Malgré ses gémissements, ses rebuffades, on le déshabilla. Gobert, qu'effrayaient les péripéties d'une épreuve nouvelle, descendit au jardin, respirer l'air pur du soleil. Pendant le dîner, en présence de Jean-Marie, dont la contrainte l'attristait une seconde fois, il voulut, mais avec une fermeté qui tout d'abord déconcerta Hélène, dire sa lassitude. « Il me tarde d'en finir avec ces complications un peu ridicules. Je tâcherai de m'arranger avec nos fermiers. » Si nous sommes justes à leur égard, ils s'en iront de bon gré. Ils ont également leur amour-propre.
Oh !
Il faut les prendre par les sentiments.
Les sentiments, je n'y crois guère.
Tu ne crois pas aux sentiments, à ces liens de l'esprit et de l'âme qui, par la joie ou par la douleur, attachent les hommes entre eux, parfois même malgré leurs intérêts matériels ?
Non, je n'y crois pas.
Les femmes, vous écoutez trop vos nerfs capricieux. Il nous faut, vois-tu, rompre sans violence avec nos fermiers. Sinon, ce sera le scandale à perpétuité.
Pas du tout.
Gobert, qui était à bout de concession, préféra par sagesse ne pas répondre. Le repas achevé, il sortit la canne en main et s'en fut avec son flegme d'homme imbu de son autorité morale, frapper à la ferme. Ursule se trouvait seule. À demi couchée sur la table, elle pleurait. La maison avait un air de détresse, le feu éteint, du linge à l'abandon. Florent, accroupi sur les dalles, triturait de la terre dans un bol rempli d'eau. À la vue du maître, la paysanne se redressa. Que lui voulait-on ? Gobert, toujours correct, s'était avancé lentement, avec mélancolie. Sûrement, il n'était pas responsable de tant de calamités. « Ne vous dérangez pas, Ursule, disait-il. Je déplore vraiment ce qui arrive. »«
Ah, monsieur !»«
Madame est la mère, après tout. »«
C'est vrai, mais il y avait à me ménager un peu, moi. Jean-Marie ne m'oubliera pas, allez !»«
Il vaut mieux que nous nous séparions de bonne grâce, tous. Vous êtes trop surexcités en ce moment, je crois. » « Je voudrais m'entendre avec Michel. Allez le prendre, je vous prie. »«
Michel et moi, ça ne fait qu'un à 7 heures. Oui, je suis sûre que dans cette affaire qui me concerne moi surtout, il me laisse gouverner. Nous ne faisons qu'un. Ce n'est pas comme chez les riches. »«
Si vous parlez sur ce ton, je me retire, et tant pis pour vous ce qui adviendra. » Ursule, aussitôt recouvrant sa prudence, s'en fut quérir son homme au bout du vallon. Ils revinrent ensemble à la course pour ne pas faire attendre longtemps M. Gobert, qui, sans doute, avait un moyen d'arranger les choses. Dès les premiers mots de son maître, Michel, tandis qu'il s'asseyait, fit de sa bouche mince une moue de déception. « Ah, monsieur, déclara-t-il après un silence, nous avons maintenant le droit de rester ici jusqu'à Pâques. Nous resterons. Vous devez nous donner congé 6 mois au moins à l'avance. »
« Séparons-nous, bons amis, Michel. Alors, si vous vous établissez à la Cordille ou dans les environs, vous pourrez venir à votre gré au château. Sinon, vous serez éternellement privé de voir Jean-Marie. »«
La loi est pour nous, monsieur. Nous n'avons que ça, les pauvres, la loi. D'ailleurs, madame peut reconnaître ses torts. »
Gobert, ne sachant trop que répondre, se grattait les lèvres.
« Madame deviendra raisonnable, monsieur. Vous verrez. »
« Voyez-vous, la meilleure solution est de nous séparer. Vous réfléchirez. Bonjour. »«
Bonjour, monsieur. Oh, on vous estime, vous. »
« Chut, chut !»
Gobert, trop ému pour entrer chez lui, s'en alla jusqu'au haut de la colline. Sous la pinède, dont les branches résineuses rendaient l'ombre violette, il rencontra Mozart qui se promenait, un fusil sur l'épaule.
« Que faites-vous là ? » lui dit-il, ricanant avec une étrange satisfaction de voir un homme plus malheureux que lui. « Est-ce que vous chassez ?»«
Oui, je chasse, je me distrais. Ah, si on pouvait acheter le droit de tuer les hommes comme celui de tuer les bêtes !»«
Vous vous tuerez vous-même quelques jours, prenez garde !»
Gobert, avec aversion, s'éloigna de cet être inutile qui semblait se plaire à déchoir. Fatalement, il revint vite vers sa femme qui lui était doux, malgré ses folies, de soutenir de tout son cœur. Du jardin, il entendit des cris terribles chez lui.